Les rencontres du livre. Le livre sous tous ses aspects avec Yolan Simon et ses invités.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai le plaisir de recevoir Marie-Françoise Rose, qui est bien connue des Havrais et au-delà du Havre. Donc, je dirais ex-directrice des bibliothèques, d'abord du Havre, puis de Rouen, pour finir avec Versailles. Je ne me suis pas trompé d'ordre.
Pas du tout, et j'ai pris ma retraite au Havre.
Et vous avez pris votre retraite au Havre, où vous travaillez. Alors, nous vous recevons pour un événement vraiment éditorial, qui me paraît de grande importance. C'est la publication de la Bibliothèque municipale de Rouen, 20 ans d'histoire. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a un petit entre parenthèses avec un S à histoire entre parenthèses, parce qu'il y a des petites histoires et des grandes histoires.
Alors, c'est 200 ans d'histoire.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Vous avez dit 20 ans.
Oh oui, mais on voit quand on aime, on a toujours 20 ans.
Voilà, exactement. Mais 200 ans, c'est beaucoup plus, en fait, parce qu'on évoque dans le livre les bibliothèques à Rouen avant la Révolution. Mais la parenthèse avec le S, c'est la grande histoire. Et puis, c'est aussi les histoires
des personnes, des gens.
Qui ont travaillé à la bibliothèque, voilà, parce que les bibliothèques, c'est aussi fait de personnes qui travaillent.
C'est presque une histoire de Rouen, je dirais, travers cette bibliothèque.
Oui, quelque part, oui.
Hein,
oui, oui.
On y retrouve tant de choses. Alors, avant, on va faire comme d'habitude, hein, la carte de visite. Hein, je racontais qu'autrefois, dans les hôtels, comme ça, il fallait remplir une fiche, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Ah, oui, 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 hein, une fiche.
Et j'avais un oncle, il mettait toujours photocopie. Et personne ne lui a jamais rien demandé, ce qui prouve que la police n'est pas toujours assez vigilante, sans doute. Alors, donc, vous êtes originaire de Normandie, Marie-Françoise ?
Ah, je ne suis pas du tout originaire de Normandie. Ma famille est tourangelle, mais j'ai passé un concours dans les années 70, un concours de conservateur, de bibliothèque. Et mon premier poste a été la bibliothèque municipale de Rouen, où j'ai été conservateur adjoint. Et j'y suis restée 5 ans, de 72 à 77. Et là, j'ai découvert une bibliothèque extraordinaire parce qu'il y avait à la fois un fonds patrimonial formidable et puis en même temps, il y avait un réseau de lecture publique tout à fait intéressant. En 77, je suis venue diriger la bibliothèque du Havre. Madame Tardif venait de prendre sa retraite. Et en 82, je suis retournée à Rouen, mais cette fois pour diriger la bibliothèque de Rouen. Et j'y suis restée jusqu'en 1998. Où je suis partie pour Versailles. Voilà, ouais. Où j'ai terminé ma carrière.
Là, c'est Madame Portron, je crois, qui
et
vous
c'est Madame
a
Portron
succédé,
qui m'a remplacée. Oui, 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 oui.
On ne vous remplace pas, mais enfin...
J'ai travaillé avec Perrette Portron.
Oui, elle travaillait déjà.
On a travaillé ensemble déjà avec vous.
Alors, il y a une ou deux petites questions un peu bêtes que je pose souvent. C'est, est-ce que vous vous souvenez de votre premier livre ?
Alors là, je vais vous dire La Comtesse de Ségur.
Oui.
J'ai appris à lire. Enfin, mon père avait la
bibliothèque
modèles. Rose.
Oui.
Oh non, c'était le général d'Ourakine.
Ah oui.
Les Mémoires d'un âne, parce que en plus à l'époque, on habitait une petite ville qui s'appelle L'Aigle et Cadichon. Il y a le marché de l'Aigle. C'est la bibliothèque Rose. C'est la Comtesse de Ségur. Puis après, bon bah tout ce qui me tombait sous la main.
Oui. Est-ce que vous avez des grands auteurs, je sais pas, Camus, Malraux ou d'autres, je sais pas.
Alors oui, Camus, Malraux. Les auteurs russes, hein, j'ai eu une période Dostoïevski, j'ai eu une période Tolstoï, j'ai eu une période Balzac, j'ai eu une période Zola, enfin
oui,
bon, si vous voulez.
Les grands classiques.
De toute façon, mes parents, on lisait pas mal à la maison. Il n'y avait pas de bibliothèque à l'époque, ce qui était la richesse que l'on a aujourd'hui.
Oui.
Mais tout ce qui me tombait sous la main, je lisais. Et en même temps, je lisais aussi des illustrés, parce que j'avais Tintin à la maison. J'avais Mickey. Et mes parents ne me laissaient totalement lire ce genre de choses. Et je les en remercie parce que je...
Vous aviez plus de chance d'avoir des Tintins que la secrétaire d'une de vos prédécesseurs qui se faisait gourmander, comme on disait.
Parce qu'elle osait
parce
parler
qu'elle osait lire du Tintin,
du Tintin.
Avec,
avec Mademoiselle Dupic, qui était la directrice de l'époque. Mais alors, il y a aussi une histoire avec Tintin, c'est dans les bibliothèques de Rouen, c'est Daniel Autoir, quand il était...
Oui, qui se précipitait.
Qui se précipitait à la bibliothèque, qui avait ce qu'on appelait l'heure joyeuse, qui n'avait rien de très joyeux d'ailleurs, mais enfin, c'était quand même... En 46, on a ouvert une bibliothèque pour les enfants à Rouen. Et alors, ils voulaient des Tintins. Oui. Malheureusement, les Tintins, ils étaient sortis.
Voilà, toujours.
Donc, il n'a pas eu les Tintins. Il a lu autre chose. Et puis, je crois qu'il a terminé sa carrière de lecteur parce qu'il est parvenu. Il a gardé un des livres de la bibliothèque.
Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, qu'il a
oublié, un livre de bricolage, je sais pas quoi.
Pour la fabrication des avions, qui joue un rôle considérable dans sa peinture, puisqu'il y a toujours un petit avion.
Oui, il y a toujours un petit avion.
Oui, qui est un jouet d'enfance. Alors, Madame Lepic, c'est ça ?
Mademoiselle Dupic.
Dupic, pardon.
Jeanne Dupic, oui.
Entre nous, elle ne semblait pas avoir inventé mai 68.
Pas vraiment, non. Bah, c'était une autre époque. C'était un personnage, bon, moi je ne l'ai pas connu, puisque de toute façon elle a pris sa retraite dans les années 65-66. Bon, c'était une toute autre époque. Hein.
Oui,
voilà, c'était une époque où, quand on recrutait du personnel à la bibliothèque de Rouen, un employé de bibliothèque, on lui faisait faire une dictée tirée des rêveries du promeneur solitaire de Rousseau.
Alors, nous sommes entrés de plein pied, comme ça, un petit peu par hasard, dans ce très bel ouvrage. Alors, je le présente un petit peu. C'est un ouvrage, sauf erreur, de 440 pages.
Oui.
Très joliment illustré, très documenté, d'un grand format. C'est combien ? 5 ans, 6 ans de, travail ?
Ça fait 5 ou 6 ans. Oui, ça fait 6 ans de travail, en gros. Et ce sont les presses de l'Université de Rouen qui l'ont réalisé. Et François Bessir a suivi le projet. Et oui, c'est 5 ou 6 ans de travail.
Oui. Alors, un petit souvenir un peu commun, d'une certaine façon, pour en finir avec le passé. Vous êtes beaucoup connu au moment de la grande exposition à Salacrou.
Oui,
pour ses 80 ans, d'ailleurs, il en avait 81, je crois, quand l'exposition a été faite, hein, qui a été un travail fantastique tout de même.
Ah ben, ça a été un travail formidable parce que j'ai eu la chance de travailler à la Villa Maritime. J'allais toutes les semaines à la Villa Maritime travailler dans ses archives et on a pu réaliser une très belle exposition dans les salons de l'Hôtel de Ville. Et à la bibliothèque, il y avait une exposition sur l'Académie Goncourt.
Oui,
hein, il y
avait
les deux.
Oui, oui.
Et puis, bon, c'est une amitié.
Où il a eu des passages tonitruants.
Oui.
Avec
Queneau,
ses colères, etc.
Oui.
Et puis, il y avait Lucienne qui était tout de même charmante.
Ah ben, Madame Salacrou était une femme d'une grande intelligence et encore une très belle dame. Hein,
et qui vous recevait.
Et quand j'ai quitté Le Havre pour Rouen, je revenais régulièrement déjeuner avec eux. C'est des liens qui sont gardés jusqu'à leur mort, en fait.
C'est assez étrange parce que moi, j'ai osé aller le voir et en fait, j'étais comme un petit garçon, quoi. Et je me suis aperçu qu'en fait, comme il tenait plus les clés du pouvoir, tout le monde s'en fichait, personne ne venait plus le voir. Il paraît que Sophie Desmarais a dit « on a bien laissé tomber le bel Armand quand il est décédé ».
Je croyais
que c'était vous qui me l'aviez dit.
Non, c'est pas moi.
Non,
mais c'est vrai,
Lucienne disait toujours à Yvette « mais revenez me voir », etc. Oui. Alors, donc, maintenant, c'est quand même une bibliothèque d'une importance beaucoup plus considérable, sans dénigrer Armand Salacrou.
Non, c'est Armand Salacrou qui a donné ses manuscrits à la bibliothèque. Mais Rouen a la particularité d'être une des deuxième ou troisième bibliothèques municipales de province par ses collections. Et c'est vrai que c'est assez... Au début, à la création, après la Révolution, là, quand elle a ouvert en 1809, il y avait 20 000 livres. Bon, 20 000 livres, bon, classique. Hein. Mais à la fin du siècle, elle s'est enrichie de 140 000 livres.
Oui.
Alors, c'est en fait la conjonction de personnalités qui ont veillé à cette bibliothèque, de maires qui ont aussi accepté d'acheter par exemple une bibliothèque d'un bibliophile qui s'appelait Lebert en 1838 pour 60 000 francs, or, ce qui est quand même considérable, qui ont amené d'autres choses. Donc, au fond initial, se sont agrégés des bibliothèques de collectionneurs ou de particuliers.
Oui, parce que la vie des bibliothèques est bien antérieure, hein, puisqu'on la doit à Napoléon, cette bibliothèque, n'est-ce pas ?
On la doit à la Révolution, parce que oui, enfin à Napoléon si vous voulez, mais enfin quand même la période révolutionnaire, on crée les bibliothèques municipales.
Ah oui.
On rassemble dans des lieux tous les livres des...
Des livres qu'on a pris au clergé, peut-être.
Qu'on a pris au clergé, qu'on a pris aux abbayes, aux émigrés aussi, mais on leur a rendus assez rapidement. Et il y a le bibliothécaire de Rouen de l'époque, à qui les édiles révolutionnaires avaient confié la répartition des livres, c'était un bénédictin de Saint-Ouen, qui s'appelait Don Gourdin. Oui. Et il a passé son temps, cet homme, à aller, notamment, ils sont allés à Fécamp récupérer des livres de l'abbaye de Fécamp, mais c'est que les gens de Fécamp n'étaient pas contents du tout. Il a fallu que l'armée intervienne parce qu'ils ne voulaient pas qu'on emmène des livres pour Rouen. Mais il y a eu tout un transfert de livres, que ce soit au Havre, que ce soit à Montivilliers, que ce soit à Rouen. Et d'ailleurs, ce qui explique qu'au Havre, il y a des livres qui auraient peut-être dû aller à Rouen et qu'à Rouen, il y a des livres du Havre qui auraient dû aller au Havre. Mais bon, à Rouen, il y a les trois quarts des bibliothèques des abbayes normandes, notamment des manuscrits. Au Havre, il y a beaucoup de livres de l'abbaye de Fécamp. Hein, ça, c'est Dominique Rouet a fait un travail là-dessus.
Mais Dominique Rouet, qui est actuellement qui conservateur de la bibliothèque du Havre. La médiathèque d'une part.
La bibliothèque, on n'emploie pas le terme.
Pour les deux établissements.
C'est la bibliothèque des meilleurs, on n'emploie pas le terme médiathèque au Havre.
Ah oui, oui.
Est-ce que je trouve bien, parce que bibliothèque, c'est un beau mot.
Oui, mais enfin, il y a toujours la bibliothèque Armand Salacroux aussi.
Ah oui, mais c'est. Les bibliothèques, c'est un ensemble.
C'est un ensemble, oui, bien sûr. Oui, justement, puisque vous parliez un petit peu du clergé et tout, je vais faire un grand bond en arrière. Oui. On a toujours un petit peu tendance à penser qu'on a inventé le livre, qu'on a inventé les bibliothèques. Alors, au tout début, il y a un fond avec des livres qui vont être créés, qui vont traverser les guerres anglo-normandes, qui vont traverser la réforme aussi, tas de débats qui vont se faire là avec la réforme.
Oui, et puis il y a quand même à Rouen, au XVIIIe siècle, Rouen est une des villes de France les plus importantes, je crois. Oui. Et il y a quand même la cathédrale. Il y a la cathédrale qui a une bibliothèque. Il y a les échevins de Rouen qui ont une bibliothèque. Il y a des lieux à Rouen où il y a des bibliothèques. Au XVIIIe siècle, l'Académie de Rouen, l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen a sa bibliothèque, elle ouvre au public.
Oui.
La bibliothèque de la cathédrale pouvait être ouverte aussi. Il y a déjà à Rouen toute une histoire livre avant la création des bibliothèques.
Et même l'histoire tout court, j'ai vu par exemple les conflits avec les jansénistes.
Oui, pendant la période janséniste, ça a été compliqué. Oui.
Et alors après, nous arrivons donc en effet au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, où il y a aussi une activité littéraire et de bibliophilie.
Puis dans les fonds qui sont en dépôt à la bibliothèque de Rouen, il y a les archives de l'Académie de Rouen, où il y a les lettres de Voltaire à Sideville.
C'est vraiment important. Oui. Alors on en arrive quand même à cette activité révolutionnaire qui va fonder...
Qui va arriver...
Non juridiquement, mais...
C'est-à-dire qu'il y a l'abbaye Grégoire, il y a la création des bibliothèques, il y a les écoles centrales qui ont des bibliothèques, et puis il y a la création de bibliothèques municipales ou des écoles centrales.
Le décret de Pluviose.
Oui, alors là, je n'ai plus la date en tête.
Je crois que c'est dû le noter, je crois que c'est 2003, mais la bibliothèque 1803. Elle-même n'existera qu'environ vers 2008.
Non, la bibliothèque, elle ouvre en 1809.
1809.
Elle ouvre en
1809. Je dis 2000, moi.
Oui, non. Je pense que 1809.
Le décret est 1803, je crois.
Oui, voilà. Et il faut trouver des lieux pour le musée et la bibliothèque. Et le premier lieu sera l'hôtel de ville, qui est l'ancienne abbaye de Saint-Ouen. Oui. Au deuxième étage de l'hôtel de ville, il y aura la bibliothèque, le musée. Donc, c'est en 1809, ça ouvre à la bibliothèque avec un discours de Don Gourdin sur l'importance du livre et puis s'ouvrir aux sciences, etc.
Alors, ce qui est intéressant dans votre ouvrage aussi, c'est que vous n'en tenez pas forcément à la bibliothèque elle-même de Rouen, mais à toutes sortes de bibliothèques populaires qui vont se créer.
Alors, si vous voulez, le livre, au départ, c'est la bibliothèque de Rouen. Et puis après, la bibliothèque dans la ville de Rouen, c'est une institution culturelle, mais qui est au milieu d'une série de mouvements. Au XIXe siècle, il y a le développement de la lecture populaire. Et un des bibliothécaires, Eugène Noël, sera très... très partisan de ce mouvement. Enfin, c'est un peu l'histoire de la lecture dans une ville au XIXe siècle, et en particulier à Rouen.
Et il ne faut pas oublier quand même que le XVIIIe, puis le XIXe siècle, on n'a pas la télévision, je crois. On n'a pas le cinéma. Et disons qu'il y a deux pôles majeurs de la culture, c'est le théâtre et la lecture.
Oui, il y a les musées aussi quand même.
Ah oui, oui.
Mais la lecture, c'est aussi une période où l'école se développe, donc on apprend à lire, parce que oui. Pour lire, il faut pas... Mmh. Et puis, il y a tout un mouvement à la fin du siècle envers les populations ouvrières. Il y a un des maires de Rouen qui demande aux conservateurs d'ouvrir la bibliothèque le dimanche matin pour que les ouvriers puissent venir lire.
Oui.
Et à l'ouvrir aussi le soir. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que le conservateur écrit au maire en lui disant que oui, bien sûr. Mais alors que le soir, ça sera plutôt réservé à la population, genre avocat, enfin. Oui. Mais que les ouvriers ne pourront pas aller se changer pour venir à la bibliothèque. Donc, le dimanche matin, ça sera plus facile pour eux.
Ah, voilà. Déjà une forme de ségrégation. Ah,
non, mais c'est assez amusant parce qu'ils ne pourront pas. Ils seront dans leur habit de travail, donc ils ne pourront pas venir. Donc, le dimanche matin.
Alors, les événements traversent la vie de la bibliothèque. Alors, évidemment, là, on fait un saut au XXe siècle, mais j'ai vu que, par exemple, l'arrivée de la reine Elisabeth en 1952 va
faire... Oui, il y avait même eu un congé du personnel municipal pour aller voir la reine d'Angleterre.
Pour aller saluer la reine d'Angleterre, qui a bien des soucis aujourd'hui.
Et puis, aussi, en 1848, pendant la révolution de 1848, moi, j'ai trouvé des lettres adressées à Potier, qui était le conseiller. C'est citoyen bibliothécaire. C'est assez rigolo.
Oui. Et alors, donc, on va avoir des périodes difficiles, évidemment. D'abord, peut-être la Troisième République, ça, c'est pas, au début, ce n'est pas une période particulièrement difficile. Au contraire, est-ce que le mouvement, Jules Ferry, la scolarisation, tout ça, vont jouer un rôle dans le développement des bibliothèques ?
Oui, ça va jouer un rôle, mais ça va jouer un rôle. Il y a quand même dans une ville comme Rouen, à côté de la bibliothèque municipale, il y a des bibliothèques populaires qui se créent. Il y en a deux. Il y a une bibliothèque d'une loge maçonnique, la loge Saint-Jean. Et puis, il y a une bibliothèque Notre-Dame des Bons Livres, qui a des prêts tout à fait extraordinaires. Mmh. Alors, la bibliothèque, elle est c'est quand même une institution un petit peu plus lourde, là.
Oui, oui.
Mais qui, quand même, essaie de s'ouvrir.
Mais il y a plus de lecteurs, quand même, à cause de la scolarisation. Pas spécialement.
Oui, mais c'est les lecteurs, il faut qu'ils soient lycéens. Il faut
Il y a quand même 2-3% de la population qui suit des études, études secondaires.
En fait, c'est la première bibliothèque populaire sera ouverte en 1906 ou 1907 dans le quartier Saint-Sever.
Oui.
Voilà. Puis après, dans les années 1923-1930, la bibliothèque des Capucins. Mais la première, c'est 1906-1907.
On trouve des traces... Dans les fonds, on trouve des traces de la Commune de Paris.
Eh bien non, justement.
J'ai vu une affiche pourtant. Ah oui, mais
non, alors
de Paris.
L'affiche, elle provient d'un fonds qui est le fonds de Louis-Aimé Raban, qui travaillait pour une entreprise de transport de produits type tableau, comme la Maison Chenu aujourd'hui. Et Raban, à Paris, avait collectionné tout ce qui concernait la Commune de Paris. Hein, voilà. Donc, il y a un fonds sur la Commune de Paris, mais la vie de la bibliothèque de Rouen pendant la Commune, n'ai rien.
Oui.
Hein, c'est très étonnant. Il y a rien. Autant pendant la guerre de 14, alors là, tout.
Oui,
ce qu'il
alors
faut.
J'y arrivais pendant la guerre.
Mais alors, pendant
guerres,
la Commune, ça m'a un peu étonné.
Hein. Alors, pendant la guerre de 14, on a froid.
Ah oui, on a froid. Ben, on a froid parce qu'on n'a pas de charbon, donc on ne peut pas. Oui, on a froid. Et puis, à un moment, il y a une vitre, il y a une grande verrière sur la salle de lecture de la bibliothèque. Puis, à un moment, il y a une espèce d'onde d'explosion. C'est une explosion qui a eu lieu au Havre et qui va jusqu'à Rouen.
Oui, et on a froid. Est-ce qu'il y a, il me semble en avoir vu en facsimilé, des ouvrages de propagande, un peu de propagande patriotique?
Alors, le gouvernement avait demandé à tous les dépôts, archives et bibliothèques, à ce que l'on conserve tout ce qui concernait la guerre de 14. Et donc, il y a tout un tas de... publicité, concernant
propagande,
la guerre affiche,
oui, propagande.
Propagande, mais...
Oui, oui. Alors après, bon, on passe sur l'entre-deux-guerres, où c'est pas, il ne se pose pas des choses très, très particulières.
Y a quand même une chose intéressante, c'est en 1914.
Avant,
c'est quand même l'entrée des manuscrits de Flaubert à la bibliothèque
de Rouen.
Ah
oui, oui, mais là, on va revenir
non,
dans au
l'entre-deux-guerres,
problème des fonds.
Bah, l'entre-deux-guerres, je dirais, on fonctionne, on travaille. Oui.
Alors après arrive la terrible période avec M. Labrosse qui... qui est arrêté.
Alors, Henri Labrosse,
qui était un conservateur, c'est
oui,
ça ?
Oui, Labrosse était directeur de la bibliothèque de Rouen de 1913 à 1941. Il a pris sa retraite à ce moment-là. C'était un grand monsieur, parce qu'il y a un livre qui vient de paraître sur les figures de bibliothécaires récemment. Il y a notamment une fiche sur Labrosse. Et il est arrêté, il fait partie des otages qui sont arrêtés à Rouen et il passe une nuit à l'hôtel de ville en se demandant ce qui va se passer. Bon, ils sont libérés, mais...
Il n'y a pas eu de problème de collaboration à la libération, il n'y a pas eu de problème, j'en ai pas vu
non.
dans le livre
non.
en tout cas.
Non, il n'y a pas de...
Par contre, il y a eu des destructions, évidemment.
Bah, pas pour la bibliothèque, elle n'a pas été détruite.
Non.
Alors si, la bibliothèque centrale n'a pas été détruite. Alors cette bibliothèque, on l'appelait la grande bibliothèque. Dans tous les papiers administratifs, il y a la grande bibliothèque. Et il y a une annexe Saint-Sever dont la toiture a été démolie, donc qui va changer de lieu. Alors on trouve dans les archives, on trouve par exemple la liste Otto, qui était les livres qu'interdisaient les Allemands.
Ah oui.
Et donc, on a des fascicules avec la liste Otto et avec, souligné par Labrosse, ce qui est interdit par les Allemands.
C'est une époque, juste après-guerre, où on a un certain Claude Simonet qui va jouer un rôle de contact avec Raymond Queneau. Il a été secrétaire même de Raymond Queneau,
non.
C'est pas lui.
Claude Simonet a remplacé Jeanne Dupic. Il est arrivé en 67-68 et puis il est parti en 98. C'est moi qui l'ai remplacé. Alors, Claude Simonet était un grand intellectuel. Il avait commencé sa carrière à la Bibliothèque nationale comme chômeur intellectuel. C'est pendant la guerre. Il y a des tas de jeunes qui sont rentrés à la Bibliothèque nationale.
Il n'avait pas fait l'école.
Non, il avait une licence en philo, une licence
c'est
en
droit.
C'est
pas ce qu'on appelle un chartiste, c'est ça ?
Il n'était pas chartiste, moi non plus d'ailleurs. Et il a été nommé à la bibliothèque de Rouen, mais il avait travaillé au périodique à l'ABN. Il avait passé un diplôme de bibliothécaire, il était conservateur. Il s'était intéressé à Raymond Queneau et il avait publié un Queneau déchiffré qui était tout à fait...
Oui, c'est ça, j'ai lu qu'il avait travaillé avec Raymond Queneau.
Voilà.
C'est pas lui qui a été le secrétaire.
Non,
il y en a un dont vous parlez qui a été secrétaire de Raymond Queneau.
Non. Il a fait des recherches pour Raymond Queneau et quand il y a eu l'exposition Raymond Queneau au Havre, c'est Claude Simonet qui a laissé toute latitude à Madame Tardif pour faire l'exposition Raymond Queneau. Et Claude Simonet est venu à l'exposition et tout ça. Mais c'était un grand intellectuel et il a su transmettre à toute l'équipe de jeunes qui était là actuellement, parce qu'on était tous jeunes à l'époque, il a su transmettre sa curiosité intellectuelle et son amour pour ce métier. Franchement, c'était un grand monsieur.
Alors, on en arrive à tout ce chapitre où vous parlez des lecteurs tout de même.
Il faut parler des lecteurs.
J'en ai un là, particulier, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, Gustave Flaubert, qui fait un merveilleux hommage à la bibliothèque. Il dit « Je vais si lentement » quand il était à la bibliothèque, c'est qu'un livre est pour moi une manière spéciale de vivre. À propos d'un mot ou d'une idée, je fais des recherches, je me perds dans des lectures et des rêveries sans fin. » Alors, on a un petit peu envie de rêver à la présence de Flaubert sur
Alors, Flaubert, sur les... Flaubert, il venait à la bibliothèque quand elle était au deuxième étage de l'hôtel de ville, parce qu'il n'a pas connu celle actuelle, puisqu'il était mort à ce moment-là.
Oui.
Et quand Eugène Noël, le conservateur de cette bibliothèque, a été nommé, Flaubert est venu le rencontrer. Alors Eugène Noël est tout content parce qu'il a pu discuter avec Flaubert. Et Flaubert était un lecteur. Et on a les registres de prêts et on a la liste de livres que Flaubert a...
Oui, il y a même un fac-similé dans lequel on voit deux ouvrages.
Oui.
Assez technique d'ailleurs.
Oui.
Alors il vient travailler aussi pour
Salambeau, pour Bouvard et Pécuchet. Notamment.
Pour Bouvard et Pécuchet, qui n'a jamais terminé tout à fait puisqu'il décède en finissant Bouvard et Pécuchet. Qui est un livre un petit peu curieux. Alors, dans ces lecteurs célèbres, il y en a beaucoup. Alors, on a parlé de Daniel Autoir, il y a... Maupassant est-il passé, lui ?
Oui, il y a un fond Maupassant, mais il n'y a pas de trace particulière. Non, il n'y a pas de trace particulière.
Alors, je pense à des gens... Alors, Alain.
Alain, oui. Dans le registre, puisque Alain était professeur au lycée Corneille. Donc, il y a, dans le registre de prêt, il y a la mention d'un livre d'Alain.
Oui. Alors, je vois des gens aussi qui sont un peu ma jeunesse. Pierre Dumayet.
Alors Pierre Dumayet, j'ai été nommé au Havre, à Rouen en 1971 ou 72. Il est venu travailler pendant un mois à la bibliothèque de Rouen pour une émission sur où il parlait de Madame Bovary. Et il est revenu à plusieurs années après, Alors Pierre Dumayet, oui, ça Pierre Dumayet.
Pierre Dumayet, rappelons peut-être pour les jeunes auditeurs, c'était cinq colonnes à la une,
oui.
Avec des groupes et puis un troisième.
Pierre Lazareff, c'était les trois Pierre Dumayet.
Oui, c'est ça, Pierre Lazareff, le créateur de France Soir.
Oui, voilà. Hein,
et je vois aussi Elisabeth Badinter.
Oui, alors Elisabeth Badinter est venue travailler sur le fonds de l'Académie de Rouen quand elle préparait ses livres sur les passions intellectuelles.
Alors enfin, on ne peut pas citer tout le monde, mais André Mauroy est venu ou je ne sais pas trop.
Alors André
Mauroy,
André Mauroy, il était lycéen à Corneille. Est-il venu travailler à la bibliothèque? Peut-être, mais bon, il y a eu des expositions André Mauroy.
C'est ça, une exposition André Mauroy.
Il y en a eu deux.
Et puis, qui termine le livre, Annie Ernaux. Donc, était d'abord à l'école normale de filles de scène inférieure, on disait à l'époque, et qui a commencé à lire beaucoup. Là,
Elle venait travailler à la bibliothèque, parce que c'était quand même un endroit où on venait travailler. Mais alors elle y a travaillé quand la bibliothèque était en travaux. Donc la bibliothèque à l'époque avait ses salles de lecture au musée des Beaux-Arts, sous la justice de Trajan de la Croix. Et parce que la bibliothèque ancienne, comme il n'y avait plus de place, on a modifié la grande salle de lecture en créant 4 étages de magasins avec une salle de lecture au-dessus.
Alors j'ai oublié aussi Claude Mazoric.
Claude Mazoric, il y avait Claude Mazoric.
Historien,
il y avait Les Chalines, tous les historiens, en raison du fond de la bibliothèque.
Oui, oui.
Et Claude Mazoric, découvert dans la bibliothèque de Rouen, le fond Coquebert de Montbré, sur lequel il a fait travailler une de ses étudiantes, Isabelle Laboulay, qui est maintenant professeure à l'Université de Strasbourg, et qui a travaillé pendant 3 ans à la bibliothèque de Rouen pour faire sa thèse sur Montbré.
Alors, on va passer peut-être à un tout autre registre. Il y a beaucoup de souvenirs, et c'est très agréable à lire. Hein. Il y a les « Je me souviens », mais il y a même le souvenir un petit peu des bibliothèques avant le numérique.
Oui.
Je notais les vieilles fiches, une certaine odeur, une atmosphère studieuse. On voit des photos d'ailleurs de cette atmosphère que j'ai pu connaître un peu quand je travaillais sur Jean Reboul à la Bibliothèque nationale.
Oui.
Eh bien, merci et à bientôt pour reprendre cet entretien dans la prochaine émission et poursuivre l'évocation de votre ouvrage.
Merci.
C'était les rencontres du livre, le livre sous tous ses aspects, avec Yolande Simon et ses invités.